Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode Z. Cette semaine, Aube vous introduit à son émission en vous présentant quelques morceaux choisis parmi ses derniers opus. Au sommaire, la psychopathologie d'échec, la petite histoire de grignotte, une chronique utopie avec les phalanstères de Fourier. En cascade, dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es, suivi de bien s'habiller pour le piquet de grève et d'un texte d'Annick Daigneault avec « Il préfère les talons hauts ». Dans la deuxième partie, une entrevue avec Christian Nadeau, la chronique cinéma de Pierre Charpioz avec le cinéma en Iran, l'apostrophe de M. Tubercil de Jean-Baptiste Gardarin, l'importance de la radio avec La guerre des mondes d'Orson Welles, et pour conclure, la marche au ralenti. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Coq à l'âme.
Ça commence toujours par une page blanche. L'excitation d'ouvrir son cahier, d'entendre le stylo faire clic. L'angoisse de pas savoir quoi dire. Faut avoir le courage de l'affronter. C'est juste que t'as pas les mots encore. Patience, persévérance. Gribouillage de notes, ratures et flèches qui partent dans tous les sens. Surtout ne pas redire quelque chose que tout le monde a déjà entendu. Dire à ma façon, selon ma perspective. Ça rejoindra peut-être quelqu'un. Relire ses notes. Trouver le thème, l'angle, le schéma narratif. Aller chercher l'inspiration jusqu'à Montmartre, s'il le faut. Lire. Lire les journaux. Lire un magazine, lire un livre. Continuer à chercher. Écouter la musique. Écouter les oiseaux. Écouter les conversations à la table d'à côté. Prendre d'autres notes. Observer. Essayer de ressentir. Raconter, essayer de faire vivre, prendre d'autres notes, relire ses notes. Se commettre. Aucune magie ne transformera les notes qui ont été prises en phrases sans que quelqu'un ne daigne faire l'effort de les agrémenter de déterminants, d'adjectifs et de compléments, d'exemples et de contre-exemples, de parenthèses, d'énumérations, parfois trop longues, et de ponctuation. Restez simple. Les auditeurs sont intelligents. Ils comprendront. Respecter le temps qu'ils t'accordent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de l'expérience? Des connaissances? Des outils pour faire du sens? La maîtrise du médium? D'en connaître les règles et de savoir les transgresser? Un sentiment. Comment décrire l'état d'être choqué, ému, bouleversé, nostalgique et plein d'espoir? Comment décrire ce qu'on ressent devant un tableau? Il n'y a pas de mots. Les mots, c'est des fils sur lesquels faire tenir des idées, comme des billes sur un collier. Tu peux en faire avec du popcorn ou des perles. Un collier est un collier est un collier. Retournez au schéma narratif. Structurez sa pensée. Les choses qui devaient être dites ont-elles été dites? Ce qui était beau a-t-il été montré? Il faut pas que ça soit parfait. Il faut que ça soit honnête. Surtout ne pas constamment écrire entre les lignes. Poèmes et dessins vivent bien mieux dans les marges. Ça permet d'élargir le cadre de la page. Mon but est une charade. Mon premier pense que c'est semblable le son, alors que c'est plutôt lui qui l'est. C'est aussi le titre d'un film français qui se passe à la table à dîner. Mon deuxième évoque le sentiment d'être dans une prison. Lorsqu'on est possédé de ce sentiment, comme société ou comme individu, l'art peut nous aider à nous libérer. Ce n'est cependant pas la seule fonction de l'art. Mon tout est ce que tous disent vouloir être. Il arrive qu'ils n'en soient pas eux-mêmes capables, mais ils espèrent que d'autres pourront peut-être. Et puis ils ferment leur cahier.
Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez et qui ne dites rien? Lui demandèrent les musiciens. Les musiciens.
Pourquoi autant de gens sont-ils attirés par la chaleur rassurante de la défaite? Peut-être parce qu'une défaite ne peut être que la prélude à un revirement, alors que la victoire tend à nous encourager à garder le même comportement. La défaite est novatrice, la victoire est conservatrice. Tous les humains sentent confusément cette vérité. Beaucoup parmi les plus intelligents sont ainsi tentés de réussir non pas la plus belle victoire, mais la plus belle défaite. Hannibal fit demi-tour devant Rome offerte. César insista pour aller aux Îles de Mars. L'armée écossaise de Charles-Édouard Stuart refusa d'entrer dans Londres qu'elles avaient pourtant conquise. Napoléon annonça la retraite à Waterloo, alors que la bataille était probablement gagnée. Et que dire de toutes ces stars du show business qui tout à coup tombent dans l'alcool, la drogue ou se suicident sans aucune raison logique? Elles n'arrivaient pas à supporter la gloire. Elles ont donc sciemment organisé leur défaite. Tirons la leçon de ces expériences passées. Derrière beaucoup de prétendues réussites, il n'y a qu'une volonté de se hisser au plus haut plongeoir pour bien se planter de manière spectaculaire.
Un texte de Bernard Werber, tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. BernardWerber.com.
À 15 ans, Grignotte, de son surnom, n'était pas tellement porté sur l'école. Ça ne voulait pas dire qu'il détestait apprendre, mais entre l'école et l'atelier de son grand-père, Grignotte n'avait aucune hésitation. Il aimait mieux apprendre avec son grand-père. Le grand-père de Grignotte n'était pas un prof, mais il aimait son métier d'ébéniste, comme un prof aime le sien. Il aimait voir ses petits-fils apprendre, comme un prof aime voir ses élèves apprendre. Il se sentait bien dans son atelier quand ses petits-fils venaient travailler avec lui. De plus, il aimait beaucoup chantonner en travaillant et il avait un faible pour Gilles Vigneault. Un beau jour, Grignotte fit irruption dans la boutique de son grand-père. Le vieil homme tournait alors une patte de table. Vous savez, c'est une vraie merveille de voir un ébéniste travailler sur un tour à bois. La pièce de bois brute et informe se met à tourner de plus en plus vite et quand l'artisan sort le ciseau à bois, des milliers de petites éclisses entrent dans une folle danse. Grignotte était béat d'admiration. Quand le tour s'arrêta quelques minutes plus tard, la pièce de bois rude s'était métamorphosée en une jolie patte de table, bien polie, bien galbée, de toute beauté.
C'est bien beau, grand-papa, j'aimerais ça essayer. Est-ce que c'est possible?
Mais bien sûr, mon homme. Je vais te donner quelques conseils de sécurité, et puis après, tu pourras essayer.
Et voilà notre Grignotte au travail. Maladroit, le jeune garçon fit une fausse manœuvre dès le départ, si bien que la patte casse immédiatement. Imaginez la déception. Il avait encore échoué. Mais le grand-père, qui avait supervisé la manœuvre, avait détecté la maladresse. Quelques ajustements, quelques encouragements, une nouvelle pièce de bois, et revoilà notre ébéniste en herbe au travail. Quand le tour s'immobilisa, on était à des kilomètres de la patte de table de l'ancêtre, bien sûr, mais c'était beaucoup mieux que la première fois. Et c'est là-dessus que le grand-père insista pour que Grignotte retourne au tour. L'homme d'expérience sait, lui, que son jeune protégé était sur le point de réussir. Il lui donna donc une pièce de bois digne de l'événement. De nouveau, le tour s'activa dans un tourbillon d'éclisses qui papillonnèrent dans toutes les directions. Quand Grignotte poussa l'interrupteur, il lui sembla que la pièce de bois ne s'immobiliserait jamais. Les yeux de Grignotte étaient rivés sur le tour, ceux du grand-père étaient figés sur ceux de Grignotte. La patte était parfaite. Un chef-d'œuvre. Le grand-père était si fier qu'il entonna d'une voix forte sa chanson favorite. Il l'a transformée selon les circonstances.
Mon cher Grignotte, c'est à mon tour de dire bravo pour ton succès.
Mais Grignotte, lui, était bien triste.
Tu vois, grand-papa, j'ai encore échoué aujourd'hui. La première patte, ça a été un gros zéro. La deuxième, ça valait à peine 40%. Alors même si tu me donnes 100% pour celle-ci, ça ne me donnera que 47% de moyenne.
Mais voyons, Grignotte... Tu vois bien que maintenant, tu es capable de travailler sur un tour à bois.
Tu comprends pas, grand-papa. Tu n'es pas allé à l'école assez longtemps.
En regardant Grignotte, qui était tristement l'atelier, le vieil homme, la larme à l'œil, essaya de comprendre quel diable avait bien pu convaincre Grignotte de son échec.
Un texte de Michel Dufour tiré de Allégorie, Croissance et Harmonie. Une adaptation de Solène Marchand.
Charles Fourier était un fils de drapier né à Besançon en 1772. Dès la Révolution de 1789, il fait preuve d'étonnante ambition pour l'humanité. Il veut changer la société. Il expose ses projets en 1793 aux membres du directoire qui se moquent de lui. Dès lors, il décide de se ranger et devient caissier. Lorsqu'il a du temps libre, Charles Fourier poursuit néanmoins sa marotte de la recherche d'une société idéale, qu'il décrira dans les moindres détails dans plusieurs livres dont « Le nouveau monde industriel et sociétaire ». Selon cet utopiste, les hommes devraient vivre en petites communautés de 1600 à 1800 membres. La communauté, qu'il nomme phalange, remplace la famille. Sans famille, plus de rapports parentaux, plus de rapports d'autorité. Le gouvernement est restreint au plus strict minimum. Les décisions importantes se prennent en commun, au jour le jour, sur la place centrale. Chaque phalange est logée dans une maison-cité que Fourier appelle le Phalanster. Il décrit très précisément son Phalanster idéal, un château de 3 à 5 étages. Au premier niveau, des rues rafraîchies en été par des jets d'eau, chauffées en hiver par de grandes cheminées. Au centre se trouve une tour d'ordre où sont installés l'observatoire, le carillon, le télégraphe Chappe, le veilleur de nuit. Charles Fourier était persuadé que si l'on appliquait ses idées à la lettre partout dans le monde, les habitants des phalanstères connaîtraient une évolution naturelle, visible sur leur organisme. En France, en 1859, André Godin, l'inventeur des poêles à chauffage, crée une communauté inspirée des phalanstères de Fourier. 1200 personnes vivent ensemble et se partagent les profits. Mais le système ne se maintiendra que grâce à l'autorité paternaliste de la famille Godin. Des phalanstères approximatifs ou des communautés du même esprit furent créées par des disciples de Fourier partout dans le monde, notamment en Argentine, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. À sa mort, Fourier renia tous ses disciples.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
Chez le camionneur qui broute son sandwich dans le casse-croûte à la sortie d'autoroute, rien. Chez le déneigeur aussi qui travaille toute la nuit à déblayer les sorties, rien. Chez le gars qui départage les bouteilles et les canages dans l'usine de recyclage, rien, rien, rien. Chez le camelot qui se lève tôt, rien. Chez le comptable à son bureau, rien. Chez le plombier qui se penche la tête dans la cuvette blanche pour y réparer la clanche, rien. Chez le coureur olympique, chez le vieillard arthritique, chez l'expert en mécanique, rien. Chez la danseuse de ballet, la fille qui est au guichet et celle qui déchire les billets. Chez la bibliothécaire qui remet le dictionnaire sur la troisième étagère. Rien, rien, rien. Dans la maison qui sommeille, rien. Chez le gardien de nuit qui veille, rien. Et la gorge qui se noue quand on pense qu'au fond de nous et qu'au bout de tout il n'y a rien, rien, rien. Chez le livreur de pizza et chez le gars qui reste en bas. Chez le mineur dans la mine, le ministre en limousine, la maman dans sa cuisine, rien. Chez le gars sur le bien-être, chez la blonde du contremaître et la vieille qui regarde par la fenêtre, rien, rien, rien. Chez le pompier à moustache, rien.
chez le voleur qui se cache, chez les flots qui nous regardent et qui relèveront la garde pour que se perpétue la mare de rien.
Notre maladie de la surconsommation est à l'image de notre désordre alimentaire. L'achat, tout comme se nourrir, est devenu un acte de divertissement. On tend à l'obésité en accumulant toutes sortes de trucs non essentiels, tandis que d'autres en manquent. L'urgence est de développer son regard juste, de doser sa consommation et d'aller à l'essentiel, quoi que les gens en pensent autour de nous. Reprenez les habitudes de votre grand-mère en y ajoutant de la personnalité. Cette avenue créative nous pousse à donner une deuxième vie à nos vêtements et à exprimer notre identité. Facile. Par exemple, une vieille paire de jeans dont vous enlevez les coutures de l'entrejambe devient une jupe en quelques heures. Faites un nouveau chandail avec trois vieux chandails usagés que vous vouliez jeter. Pinterest et Internet regorgent de bonnes idées de repimpage de vêtements. Vous pouvez d'ailleurs visiter le blog Refashionistas, le blog donc d'une couturière créative qui fait des miracles avec des fripes. Préférez laisser ce plaisir de créer à d'autres ? Eh bien, il existe sur l'île, outre les nombreuses friperies où on revend de l'usager, 5 lieux où on peut se procurer des vêtements post-fabriqués par des designers. La friperie La Gaillarde dans Saint-Henri offre une variété éclectique de vêtements confectionnés par plus d'une quinzaine de designers. On & On Ecologique se spécialise dans le prêt-à-porter, tandis que Preloved donne dans ce qui fait très in sur le marché. Aricana dans Saint-Henri, pour sa part, recycle de la fourrure, et Manus Humana sur le plateau, dans le haut de gamme sur mesure. Tout est réutilisé, recyclé, valorisé. En achetant les produits de ces designers engagés, vous encouragez aussi la création locale. Réutiliser, c'est aussi faire circuler le vêtement qui dort dans votre tiroir. Alors donnez ! Donnez aux organismes locaux, près de chez vous, qui vendent aux gens dans le besoin dans votre quartier. Donnez à Renaissance. Donnez à votre famille, aux ressourceries qui se fera un plaisir de réutiliser vos vieux vêtements et de les transformer. Je vous suggère de consulter le guide du réemploi Montréal, dans lequel vous trouverez où donner. Pour recycler vos vieux vêtements, portez-les à l'une ou l'autre des 16 fabriques de transformation qui existent au Québec et qui les recyclent. Qui sait, peut-être que les prochaines guenilles que vous donnerez se retrouveront sur le plancher ou dans le coffre d'une voiture en guise de tapis. Au niveau du coton, sur le site de World Watch Institute, on peut lire que le coton est la fibre la plus vendue au monde. Et qui dit t-shirt, dit coton. Qui dit coton, dit pesticides et donc pollution. Selon Lucie Letourneau, fondatrice de Canolio et auteure du livre Le chanvre dans votre assiette, aux États-Unis, la culture du coton nécessite à elle seule la moitié du tonnage de pesticides utilisés dans ce pays. Le chanvre, qui a très peu de parasites, n'a pas besoin d'une telle quantité de produits chimiques. L'achat de coton organique et de vêtements de chanvre sont donc les meilleures alternatives. Ainsi, la ligne de vêtements Question Authority nous offre une gamme de produits stylisés, confortables, mariant coton biologique et chanvre, le tout fabriqué à Montréal. Acheter nu et naturel signifie aussi éviter d'acheter des vêtements faits à partir de fibres synthétiques. Les fibres de polyester sont faites en effet à base de pétrole, une ressource non renouvelable. Ça fait des années que plusieurs personnalités engagées dénoncent les conditions atroces qu'on retrouve dans les sweatshops ou zones franches industrielles situées un peu partout sur le globe. Dans son livre « Nos logos », Naomi Klein nous partage ce qu'elle a observé et vécu dans ses usines de fabrication. Affirmez-vous par écrit, par téléphone, manifestez vos opinions, ce que vous pensez du fait que ces entreprises encouragent des pratiques injustes, parce que toutes ces marques vous écoutent et elles ont peur de perdre des ventes. J'espère que cette recherche vous a inspiré et vous a encouragé à la pousser encore un petit peu plus loin. Faites de vous un activiste qui s'engage à respecter le droit des individus, l'environnement, jusqu'au dernier morceau de vêtements. Si vous voulez vraiment acheter, alors visitez les designers du recyclé rassemblés sous les différents organismes que je vous ai présentés, allez dans les friperies, préférez le coton biologique et le chanvre au coton régulier ou même aux fibres synthétiques. Faites vos propres vêtements en réutilisant ceux que vous possédez et organisez des soirées d'échange de vêtements. Toutes ces actions sont des petits gestes pour devenir davantage responsable, et ce, jusqu'à la dernière guenille.
un texte de K, repimpé par Aurélie Superchicou.
Ce n'est pas parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid qu'on va arrêter de sortir dans les rues. Mais avec notre gouvernement qui continue à se prendre pour M. Scrooge, il va falloir plus que des bonnes bottes. Peu importe la valeur de ton Canada Goose, ce qui compte, c'est de bien s'habiller et de faire preuve de bon sens. Lors de manifestations, il est bien important d'avoir des vêtements qui transpirent et qui évacuent l'humidité. Il faut éviter les tissus comme le coton. Idéalement, on optera pour un vêtement de type Under Armour qu'on mettra sous notre T-shirt Gucci. Je recommande aussi une veste en polar ou en laine pour bien s'isoler du froid et finalement un bon manteau pour se protéger du vent d'austérité qui frappe les pays occidentaux comme le nôtre. Lors de conflits de travail avec notre employeur, nous pourrions aussi être appelés à tenir des piquets de grève. C'est pourquoi il faut faire bien attention à ne pas se geler les orteils en s'assurant de porter des bottes avec une semelle assez épaisse pour éviter le froid du sol. Je recommande aussi de toujours porter deux paires de bas. Une légère pour nous garder les pieds au sec et une bonne paire de bas de laine de notre grand-maman pour conserver la chaleur. Les doigts seront aussi très sollicités. Rien ne vaut une bonne paire de mitaines de skidou pour tenir une pancarte dénonçant les coupures abusives de l'assurance-emploi. La force du nombre permet de maintenir la chaleur, contrairement aux gants qui isolent chaque doigt. Mais puisque les gants offrent une certaine flexibilité lorsqu'on souhaite, par exemple, tendre le doigt à notre patron qui nous a mis en lock-out, ou encore pouvoir aisément suivre le mot-clic « manif en cours », l'idéal est de porter une petite paire de gants minces sous des mitaines. Il est important de s'assurer que les doigts demeurent en mouvement, pour éviter les engelures. Il faut aussi bien couvrir notre cou avec un bon foulard, afin de garder la tête haute malgré les discours méprisants des radiopoubelles. D'ailleurs, notre cache-cou devrait idéalement pouvoir couvrir la bouche et le nez, puisque les vents d'hiver sont imprévisibles et ils pourraient à tout moment nous souffler les gaz lacrymaux dans la figure. Il faut aussi porter une bonne tuque pour protéger nos idées et nos idéaux de justice sociale et de respect de l'environnement. De plus, une engelure aux oreilles pourrait nous empêcher de bien comprendre le double discours de nos politiciens. On peut donc penser qu'un bon équipement permettra aux manifestants, aux grévistes et aux locatés de continuer à occuper l'espace public tout le long de l'hiver. Il est tout de même important de se rappeler que ce sera d'autant plus facile si ces derniers, à la manière des pingouins, se serrent les coudes et resserrent leurs rangs.
Texte et narration de Guillaume Lambe.
Dans nos têtes de grands, il y a un temps pour le jeu puis un temps pour la vie. Or, dans la tête de nos petites utopies, ces frontières n'existent pas. La vie est un jeu. Je suis une maman Peter Pan, un pirate qui fait son possible dans le grand remous du quotidien. On me le reproche souvent d'ailleurs. De trop puis de pas assez. Trop de questions, trop de doutes, trop d'amour, trop agressive, trop sensible, trop de mots, trop d'énergie, trop brute. Annick, t'es trop têtue, t'es trop intense, trop d'imagination, c'est trop Annick. Puis on dit que la pomme, ben, ça tombe pas très loin de l'arbre. Quand je portais mes fruits, je me caressais la peau du nombril comme on flatte la lampe du génie en répétant « Je souhaite générer des punks. Je souhaite générer des audacieux, des entêtés, des différents, des esprits libres. » Mes fruits sont tombés. Ils sont indéniables, vivants, bruyants, imparfaits, surprenants et hors normes. Je porte fièrement mon T-shirt « I love weirdos ». Chez nous, on est donc trois trop. On a ben du fun, puis on fait pas mal de milles sur les réflexions que notre triangle stimule. On médite beaucoup sur la norme et les réflexes arbitraires de catégorisation, sur les étiquettes. Ainsi, en plus de mon attachant petit poète aux bouclettes sucrées d'enfant autiste, j'éduque une princesse gauler qui botte des culs, des stéréotypes et tous les concepts du genre des jeux. Que les géants du marketing séparent les intérêts des enfants par couleur gars-fille, chez nous, depuis toujours, on s'en bat le mognon puis on fait ce qu'on veut. Laisser son héritier masculin jouer avec des Legos roses et quelques froufrous en privé peut peut-être encore passer pour plusieurs. Tu sais, si ça reste anecdotique puis qu'il trippe quand même ses camions. Entre deux haussements d'épaules qui se veulent détacher, on investit quand même plein d'espoir que cet intérêt pour les couleurs de filles ne fera pas de lui une fifi qui trippe sur le balai puis on se surprend à pousser quelques blagues qui nous rappellent que 2015 n'est pas si loin de 1950. Or, mon fils s'habille en princesse. Et parfois en fille.
au goût douteux, j'en conviens. Et oui, je le laisse sortir de même. Et don't mess with my princess. Pour assurer les gens qui parfois le toisent avec un regard oscillant entre perplexité, tu laisses sortir ton fils de même. Et admiration, oh, il est cute. Bravo, en tout cas, de ne pas vous en formaliser. Je leur dis que je ne suis même pas inquiète, qu'il est encore petit, puis qu'il y a des fortes chances que ça lui passe, puis sinon, ben, basta. Il saura que sa famille n'est pas répressive et qu'il a le droit d'être lui, tout lui. Humblement, surtout, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va lui passer. Puis j'espère rien non plus. Je lui souhaite juste le meilleur et la totale, puis j'agis en fonction. Même si je sais que si vraiment mon fils est une fille ou une princesse pour toujours, il l'aura pas facile. Mon fils s'habille en princesse depuis lurette. Il aime se coiffer comme une fille, il préfère les chaussures à talons qui s'allient dans la boîte, il se fout des standards, des regards. Ses comportements sont ouverts, non-genrés, hors normes et pleins d'arrogance affirmée et libre. Même si je lui explique que techniquement, non, il n'est pas une fille, que je lui présente des faits, je lui laisse l'espace pour être et explorer. Alors, fils 2 maintient son propos et désormais, il nuance. « Maman, dans mon corps, je suis un garçon, mais dans mon cœur, je suis une fille. » Je trouve cet équilibre sensible et magnifique. Nos enfants se construisent en observant, en s'opposant, en créant et en osant. Bien plus qu'avec nos mots, ils apprennent par la cohérence de nos gestes et l'alignement de nos valeurs. Nos enfants arrivent à cœur ouvert dans le monde qu'on leur offre et leur vision se teinte de nos peurs, de nos valeurs, nos vieux bagages, de nos balises de grands qui perdent du souffle dans la côte. Ainsi, si je me fie à l'héritage naturel de ce petit paquet humain que mon utérus a gossé, j'ai même pas à lui enseigner l'ouverture. Mon enfant est arrivé sans a priori et ouvert. Pour rester vivante, puis parce que mes fils m'offrent chaque jour l'opportunité de décapiter mes réflexes de protection inargumentables, ben je leur laisse le loisir de me confronter. Alors, pour tester la cohérence entre mes élans lyriques et ma si virtueuse ouverture sur le terrain, mon fils a choisi, en guise de chaussures estivales, des petites chaussures de fille. Alors à l'achat, alors que j'ai choqué, oui, pour les typiques sandales bleues, j'ai réfléchi. Puis je me suis fait un pacte. Donc, en offrant support et explication, je me promets de laisser au maximum libre cours aux excentricités de mon fils. Dans l'espoir de calmer mon anxiété maternelle pour la suite du monde, je me promets de ne pas imposer à son éducation les stéréotypes qu'on m'a inculqués. J'accepterai de poser un regard nouveau sur le genre et j'oserai avec lui transgresser des frontières et vivre avec certains malaises. Le jugement d'autrui, de toute façon, il y sera exposé. Aussi bien saisir l'opportunité de lui enseigner à le confronter ou à s'en battre les couilles maintenant. L'identité de mes enfants n'est pas définie par leur choix d'activité, les couleurs, les jeux qu'ils préfèrent et les vêtements qu'ils portent, ni même par leur diagnostic. Leurs choix ou personnalités actuelles ne sont pas immuables. Je sais que mes enfants changent et tous les jours, je leur laisse le loisir de se réinventer. Genrer pour moi, c'est céder à la peur irrationnelle de non-conformité. C'est offrir cette peur de la différence, de l'audace en héritage à ses enfants. Malgré que oui, un certain trouble lié à l'identité ou au stéréotype existe en moi, je refuse qu'il soit moteur de leur éducation. Ainsi, désormais, quand quelqu'un me demande pourquoi mon fils est habillé en fille, parfois, fils 2 se retourne juste pas, puis je le laisse tranquille. Mais parfois, je redirige vers lui la question. Et il répond alors vraiment comme un chef. Ben, parce que j'aime ça. Dit-il en poursuivant son chemin. Alors quand je vois ce fils se tenir debout, du haut de ses presque 4 ans en enfilant sa robe, ses talons pour aller jouer au hockey dans ruelle, et affirmer ce qu'il aime, ce qu'il veut en se foutant pas mal des attentes et des petits malaises des autres gars de la ruelle, ça me rassure. Je me répète qu'il a du culot pour tous ceux qui baissent les yeux, que tout est parfait et que malgré l'incertitude, j'apprends.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, vous avez entendu la psychopathologie de l'échec, la petite histoire de Grignotte, la chronique utopie avec les phalanstères de Fourier, dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es, et la musique de mon oncle Serge avec rien. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez toujours télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie, une entrevue avec Christian Nadeau, la chronique cinéma de Pierre Charpiose, l'apostrophe de M. Tubercil, l'importance de la radio avec Orson Welles. Et pour conclure, la marche au ralenti.
Pour moi, il y a bien sûr le cynisme, mais il y a aussi les gens qui essentiellement se mettent dans une position où ils disent « ce n'est plus mon problème, donc je ne vais pas m'en mêler ». Donc c'est des gens qui occupent, disons, une position de surplomb, un peu comme s'ils étaient sur le nuage, et du coup, eux se croient, disons, immaculés. Alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont exactement dans le même endroit où nous sommes, dans la même situation que la nôtre. Seulement, ils se donnent l'excuse de ne pas y être, mais c'est une vue de l'esprit. L'autre chose, c'est celui de la responsabilisation. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as conscience de ce pouvoir, alors comment tu l'utilises? Et c'est là où va jouer vraiment un rôle essentiel le débat public. Et par s'investir dans le débat public, vous savez, j'ai une conception très large de ce que peut signifier, disons, cette activité. Je ne demande pas à tout le monde de s'investir à fond dans le militantisme, par exemple. Mais ça peut simplement vouloir dire aller chercher plusieurs informations. Ça peut simplement vouloir dire cesser de lire uniquement les chroniques d'opinion, puis aller voir aussi du côté des faits, lorsqu'ils sont disponibles, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ça peut vouloir dire confronter ses intuitions avec d'autres personnes, afin de vérifier si ce qu'on pense a une certaine résonance. Est-ce que ce que je pense, c'est simplement une opinion, et puis après je dis, bon ben voilà, c'est mon opinion, tout le monde a droit à son opinion, ou est-ce que je suis prêt à présenter une idée de manière telle à ce que quelqu'un puisse l'infirmer? C'est-à-dire, quelqu'un pourrait arriver et me dire, d'accord, tu dis X, mais peut-être Y. D'accord. Et pour moi, le débat public, en gros, ça devrait ressembler à un débat d'hypothèses. C'est-à-dire, on avance des hypothèses, puis ensuite, on vérifie. Et il est possible qu'on tienne mordicus à son hypothèse, parce qu'on considère que c'est la meilleure formule, mais on n'y croit pas de la même manière que, disons, une conviction religieuse.
Merci à Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Monsieur Nadeau est aussi impliqué comme président de la Ligue des droits et libertés du Québec et participe quotidiennement au débat public. Vous trouverez toutes sortes de façons de vous impliquer vous aussi au ligue-des-droits-qc.org.
Le cinéma est-il politique? Le cinéma peut-il changer la société? Le cinéma peut-il changer le monde? Ah, bien sûr que non. Le cinéma, ce n'est que des images en mouvement, ce n'est que de la lumière sur un écran, ce n'est que des histoires qu'on nous raconte. Mais pourtant, la question est loin d'être anecdotique. Si sa capacité révolutionnaire est souvent surestimée, le cinéma est un des instruments de l'armurerie médiatique. L'histoire se souvient, hélas, que Joseph Goebbels, ministre de la propagande, le nom veut tout dire, de la plus horrible dictature du siècle dernier, était un passionné de cinéma. Que le Troisième Reich a mis plus d'argent que n'importe quel autre régime dans ce qu'à l'époque on ne pouvait pas vraiment qualifier de septième art. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui à l'heure des mass-médias et d'Internet? La propagande est toujours là, évidemment, mais elle ne s'exerce plus exclusivement sur le grand écran du cinéma. C'était la radio, la responsable du massacre des Tutsis au Rwanda en 1994, avec la radio des Mille Collines qui diffusait des messages de haine à longueur de journée. Quelle est la toute première chose qu'a faite le RSP après leur coup d'État il y a quelques semaines au Burkina Faso? Prendre le contrôle de la télévision nationale. Ah oui, le cinéma a un impact bien moindre face à ces médias traditionnels, souvent aisément contrôlables. Alors j'occulte volontairement Internet, car le débat de la liberté d'expression sur Internet est immense, vertigineux, et que c'est plus modestement de cinéma que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et justement, le cinéma ne serait-il pas devenu une forme de contre-pouvoir? L'art a souvent été l'expression d'une autre manière de penser, d'une autre manière de voir les choses. Et le cinéma a ceci de supplémentaire face aux arts académiques, il touche un public large. Il est, pour utiliser ces termes, facilement consommable. C'est pourquoi il est nécessaire, quand on fait un film politique, de faire aussi un film de divertissement. Alors le cinéma a un contre-pouvoir ? Pour un réalisateur en particulier, ça ne fait pas de doute. Ce réalisateur, c'est Jafar Panahi. Il est iranien et il est cinéaste. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est déjà presque un oxymore. Car c'est tout le paradoxe de l'Iran aujourd'hui. C'est un des pays les plus importants pour le cinéma contemporain, un cinéma d'ailleurs souvent très politique, alors qu'il est fabriqué dans un pays qui fait tout pour que ce cinéma n'existe pas. Pourtant, Jafar Panahi, il aime l'Iran, il aime son pays. Et c'est ce qui transparaît dans son dernier film, Taxi. Mais cet amour ne semble pas toujours très réciproque. Jafar Panahi a grandi dans une banlieue de la capitale Téhéran. Il a 19 ans lorsqu'éclate la révolution islamique qui renverse le Shah et transforme le pays en république islamique. Il est alors étudiant en cinéma. Alors dans un premier temps, le nouveau régime ne l'empêche pas vraiment de réaliser ses ambitions. Après avoir fait ses armes à la télévision, il commence à travailler pour le grand réalisateur iranien Abbas Kiarostami, qui scénarisera d'ailleurs son premier film, Le Ballon Blanc, en 1995. Le Ballon Blanc est considéré comme beaucoup déjà pour un chef-d'œuvre. Il reçoit cette année-là la Caméra d'Or au Festival de Cannes et une sélection dans plusieurs festivals qui lui vaudront déjà une reconnaissance internationale. 2 ans plus tard, il réalise Le Miroir, un film au succès moindre sur les mêmes thèmes que Le Ballon Blanc. Et pour l'instant, il n'est pas vraiment inquiété par la justice iranienne. Il faut dire que ces films ne sont pas, a priori en tout cas, des films politiques. Mais c'est entre 2000 et 2003 que les choses vont se gâter. Jafar Panahi réalise coup sur coup 2 films, Le Cercle, Lion d'Or à Venise et Sang et Or, prix du jury Un Certain Regard à Cannes. Le premier parle de la situation des femmes en Iran et le second parle du déséquilibre social et des inégalités de la société iranienne. 2 films donc politiques. 2 succès, 2 succès critiques, très importants à l'étranger, mais interdits de diffusion en Iran. Les films ne sortent ni en salle, ni à la télévision, ni ailleurs. Ils sont tout simplement censurés par le régime. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de tourner. Il persiste et signe Hors Jeu, un faux documentaire devenu culte sur des femmes passionnées de soccer et qui décident d'assister clandestinement au match, tant bien même que ça leur est interdit depuis la révolution islamique. Bien sûr, le film est interdit, mais en 2005 se développe une technique qui n'était pas vraiment présente au début des années 2000, le téléchargement illégal et la copie de DVD. Et c'est comme ça que le film circule en Iran, sous le manteau, jusqu'à obtenir une certaine notoriété, ce qui bien sûr ne plaît pas vraiment au régime. Alors à partir de là, il est surveillé de très près. Tous ses films sont interdits. En 2009, il est envoyé en prison pour quelques mois pour d'obscures raisons. En février 2010, il est l'invité d'honneur de la Berlinale de Berlin. Mais les autorités iraniennes lui bloquent son passeport à la frontière, l'empêchant de s'y rendre. Et ce n'est pas fini. En mars 2010, il accepte de faire partie du prestigieux jury officiel du Festival de Cannes. Et peu après l'annonce, sans raison apparente, il est arrêté par le régime avec sa femme et sa fille et envoyé en prison. Ils sont relâchés 48 heures après, mais lui restera sur les verrous jusqu'à la fin du Festival de Cannes. Et on se souvient de l'image symbolique pendant le festival, de ce fauteuil vide de Jafar Panahi à chaque projection, à chaque cérémonie. En septembre suivant, c'est le Festival de Venise qui sélectionne son dernier film. Mais bien entendu, à nouveau, le gouvernement lui interdit de s'y rendre. Il est bloqué en Iran. Et l'étau iranien va se resserrer encore plus autour de Jafar Panahi. En décembre 2010, il est condamné à 6 ans de prison pour, je cite, « participation à des rassemblements et propagande contre le régime ». Il est malgré tout libre, même si c'est certainement un euphémisme dans sa situation, mais il est condamné à encore pire pour lui que la prison, l'interdiction de tourner, l'interdiction de faire des films. Alors voici le paradoxe de la situation de Jafar Panahi. Il n'a pas le droit de réaliser de films en Iran et il n'a pas le droit de sortir du territoire iranien. En 2010, Jafar Panahi, réalisateur, n'a plus le droit de faire des films. Non seulement ils ne sont pas diffusés, mais en plus il n'a pas le droit d'en faire. Et pour décrire cette situation, un peu absurde, il réalise dans le plus grand secret, en 2011, Ceci n'est pas un film, qui en est quand même un en fin de compte. Alors sans qu'il soit vu par personne, le film est quand même sélectionné à Cannes. Pourtant le comité du festival se demande bien comment est-ce que ce festival va recevoir ce film. Alors en début de festival, le comité de direction de Cannes reçoit un gâteau. Alors il découpe des tranches des parts de ce gâteau, et là, surprise, une clé USB à l'intérieur contenant le film de Jafar Panahi. Et depuis, le cinéma de Jafar Panahi, ce n'est que ça. Inexistant en Iran, le gouvernement fait comme ça n'existait pas, lui tourne en secret, et ses films sont des succès critiques et publics à l'étranger. Dans le dernier en date, Taxi, à mi-chemin entre fiction et documentaire, Panahi se fait passer pour un chauffeur de taxi. Il installe la caméra dans son véhicule, il filme ainsi les autres passagers. Alors c'est parfois drôle, c'est parfois émouvant, c'est parfois révoltant, mais c'est surtout un film très divertissant et en même temps, c'est un vrai film politique. Et c'est un drôle de pied de nez au gouvernement iranien. Alors ça changera peut-être pas le monde, ce film, ça changera peut-être pas la société, Ça nous permet d'avoir déjà une vision pas forcément alarmiste, pas forcément catastrophiste, mais une vision proche des gens, une vision proche des Iraniens d'aujourd'hui, de ce que ça peut vouloir dire pour eux, les mots politique, les mots société et les mots liberté.
C'était une chronique cinéma de Pierre Charpioz.
Combien de personnes tentent, en vain, de découvrir l'avenir et d'anticiper les gestes d'un univers immensément riche. Riche au point de rendre aveugle l'homme face à la trame du temps. Nous sommes de petits êtres récompensés petitement, dans les petits renforts pompeux de civilisations toujours prêtes à se perdre. L'individu, dans tout cela, apprend peu à peu à délaisser les horoscopes pour finalement se laisser guider par l'instinct gagné à force d'échecs et de désillusions. Une moite lenteur d'esprit occulte divinement tous ses espoirs. Et, écrasé par le destin, il s'amenuise pour prendre la taille d'une excuse. Une excuse n'existe pas. Elle est un peu là, un peu ailleurs, comme gênée d'exister aux yeux des autres, aux yeux du monde. Je ne m'opposerai pas à une telle pensée. Il est vrai que l'univers écrase dans sa splendeur immuable le talent éphémère de l'homme, mais j'ajouterai néanmoins que l'homme a le choix d'en explorer les splendeurs jusqu'aux limites de sa perception. L'avenir ? Anticiper ce que l'homme pourrait être ou ce que l'individu sera, tout cela doit se cacher dans les recoins les plus sombres et odieux du monde. Est-il censé de penser ainsi la création divine ? Tout est caché selon moi et il suffit de le trouver. Battre les cartes, lire le ciel et ses ragoûts futuristes d'aruspice encrassés ne sont que des odieux mensonges sur la route de celui, digne, qui cherchera le réel avenir et décidera d'accepter la vision brute de son futur. Quiconque est passé par le filtre de la légende et du mythe saura que l'on est souvent déçu ou berné lorsqu'un être d'au-delà de nos sens nous annonce en fanfare les gestes et les chants qui parleront de nous. On se croit immortel et l'on plonge au fond du gouffre. La question de lire l'avenir n'est pas intéressante en soi. Au contraire, elle est bestiale et à peine humaine. Elle reflète des peurs immémoriales. La question de la réponse est quant à elle bien plus pertinente. Le petit homme demande à l'univers son avenir et ressort encore plus amoindri. Car la parole de l'univers l'écrase et le broie. Il aurait mieux fait de chercher en lui-même la réponse plus humble de son propre devin. « Qui serais-je » demande-t-il. « Sans aucun doute, toi-même, et tout ce que tu auras bâti au-delà de tes craintes. »
Le 30 octobre 1938, sur le réseau CBS aux États-Unis, la troupe Mercury Theatre interprète une dramatique radio. Orson Welles y livre une adaptation du roman « La guerre des mondes » de l'écrivain H.G. Wells. La mémoire collective a retenu que l'émission aurait causé un vent de panique à travers les États-Unis, des dizaines de milliers d'auditeurs croyant qu'il s'agissait d'un bulletin d'information et qu'une attaque extraterrestre était en cours.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
Plaçons-nous dans le contexte historique de l'époque. Nous venons tout juste de sortir de la Grande Dépression. La guerre menace en Europe et l'Amérique s'inquiète de l'avenir. Orson Welles, 23 ans, pris par les répétitions de sa pièce de théâtre « Denton », n'a pas le temps de participer activement aux séances d'écriture de la fiction radio, et les scénaristes adaptateurs ne sont pas très enthousiasmés par le sujet.
À la veille de la diffusion, Welles prend l'initiative, en accord avec la troupe, de situer l'action dans le présent. Après une nuit de réécriture, une nouvelle version, qui rompt avec l'unité de lieu narrative, est répétée. Sans le savoir, il allait passer à l'histoire.
We now return you to the music of Ramon Rockello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Tout le succès de ce moment de radio réside dans la brillante mise en scène de Welles. La pièce était constituée d'une succession de flashs d'informations, d'interviews et de reportages.
Le coup de maître était le réalisme. Bien qu'étant annoncé au début de la diffusion comme l'adaptation d'un livre, le programme débute par un bulletin météo, puis une séquence musicale brutalement interrompue par un bulletin d'alerte exceptionnel qui annonçait à 20h15 que les Martiens venaient de débarquer dans le New Jersey.
Aussitôt, la panique s'empare du pays. La nouvelle faisait ressurgir les angoisses profondes de la nation. Les réservistes de la région inondent même les casernes d'appel pour proposer de se battre.
Ce prodigieux scénario catastrophe est réussi au-delà de toute espérance. L'équipe du psychologue Henley Cantrill a même récolté rapidement après l'événement de nombreux témoignages de personnes ayant paniqué durant la diffusion radio. Certains témoins ont même rapporté avoir ressenti des symptômes physiques tels que l'odeur des gaz des Martiens ainsi que la chaleur des rayons émis par leurs armes. Le Washington Post rapporta le cas d'un auditeur mort d'une crise cardiaque durant l'émission et une auditrice intentant un procès à CBS en réclamant à la chaîne $50,000 pour lui avoir causé un choc nerveux.
Dans les jours suivants, plusieurs centaines de lettres de plainte sont envoyées aux responsables de la radio et Orson Welles dut faire des excuses publiques.
Bien que la panique fût réelle, elle fut amplifiée par les médias écrits. En siphonnant les revues publicitaires de la presse papier durant la crise de 1929, la radio leur avait gravement nui. Ces derniers ont donc sauté sur la chance fournie par l'adaptation de La Guerre des Mondes pour discréditer la radio comme source d'information.
Le New York Times écrit « La nation dans son ensemble fait toujours face au danger d'informations incomplètes et mal comprises sur un média qui doit encore faire ses preuves quant à sa compétence à traiter l'information. » Le tout, bien sûr, crée un précédent. Le président de la Commission fédérale des communications a obtenu l'accord des chaînes de radio pour que celles-ci n'utilisent plus de flashs d'informations fictifs. Bref, cette escalade médiatique permit à Welles de passer à l'histoire.
Cet incident démontre bien à quel point nous sommes prêts à croire ce que les médias diffusent.
Rappelons-nous les auditeurs qui ressentaient même les symptômes physiques de la guerre des mondes.
À cette époque, les Martiens étaient le sujet le plus susceptible d'ébranler la société américaine et Welles l'avait bien compris. Difficile de faire autrement. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qui vient d'ailleurs, qui nous en veut, qui peut frapper n'importe qui, n'importe où et sans prévenir. Aujourd'hui, les Martiens n'auraient probablement pas le même impact sur notre société moderne. Mais demandons-nous ceci. Existe-t-il un sujet qui, amplifié par les médias, pourrait nous ébranler fondamentalement? Quelque chose qu'on connaît peu, qui vient d'ailleurs, qui nous en veut et qui peut frapper n'importe qui, n'importe où et sans prévenir.
Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson?
Yes, sir.
Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing?
Possibly the unequal cooling of its surface.
I say, do you still think it's a meteor, Professor?
Nous interrompons ce programme pour un bulletin régulier. Comme d'habitude, il fait une certaine température, il y a un certain trafic sur un certain pont. De retour à la programmation régulière.
We continue now with our piano interlude.
Texte et narration de Martin Junior Pelletier et de Guillaume Lorme.
Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in.
Gris, gris, tout est gris dans ce redout si provisoire, sauf le parc en face argenté, une vraie glissoire. La fontaine a débordé puis gelé. Un peu de poésie toutefois, musique psytrance sur la patinoire très éclairée à minuit, pas un chat pour l'écouter, hormis les riverains irrités et moi ravi. Vu en cette quasi-fin d'automne glacée, un chêne fastigié portant encore toutes ses feuilles, étrange hybride bien plus résistant désormais que les grands frênes d'ici rongés par la grille, vilaine bibite venue de Chine. S'abstraire, certes, facile quand tout le reste est si différent de nos propres paysages, d'où l'intérêt de l'insolite, s'ouvrir à d'autres sphères plus chaleureuses, des recoins de la zone périphérique neuronale, plasticité cérébrale déjà très développée chez les femmes et les poètes. Justement, au show, tout à l'heure au cabaret Mado, et vu tous ces hommes déguisés s'efforcer de personnifier notre genre, des sex-symboles ou d'autres femmes archétypales follement romantiques, de Dalida à Fabia, de Céline à Madonna, drôles, colorées, impertinentes, tout en strass et en déhanchement, axées comme nous toutes sur « aimez-moi, je suis belle comme ça, n'est-ce pas ?» J'admire, je pouffe, je compatis, mais je ne comprends pas toujours des parcours si différents, j'avoue. Mais chausser les mocassins de l'autre, y faire mille mille et mieux sentir, comprendre, compatir ou en rire. Mais l'amour réchauffe toujours. Acteurs principaux, scénaristes et réalisateurs, tristes ou joyeuses, maniaco-dépressifs que nous sommes tous l'hiver. Gros cliché s'il en est, et luxe ultime, privilège de l'artiste ou de n'importe quel qui d'âme motivée. On peut changer de scène et de style à volonté dans ce malgré tout en pays encore libre et fou, même pour les femmes, surtout ici. Territoire encore à rêver et à peupler de nos louables utopies réalisables, se coller à l'autre pour mieux se réchauffer corps et âme. Unissons-nous plus souvent et bougeons mieux que ça que diable. En bande motivée, c'est bien plus rigolo qu'en solo. Tant de champs à défricher, à ressemer de nos akènes de perles de beauté, de folie partagée. Encore trop nombreuses à être en friche, dans nos âmes si fragiles, sommes toutes androgynes.
Un texte de Annie Schneider du nom de Paradoxe saisonnier.
When I shall cease to be, no more I be true, in perfect harmony. When shall I be free, when I shall cease to be, no more I be true, in perfect harmony. When shall I be free, when I shall cease to be, no more.
Saviez-vous que lorsque vous laissez tourner votre moteur de voiture alors que vous ne roulez pas, ce n'est pas seulement l'environnement que vous détériorez, mais également votre moteur? Un moteur qui tourne au ralenti consomme en moyenne 2 litres d'essence par heure. 10 minutes par jour vous font gaspiller plus de 100 litres d'essence dans une année. De plus, un moteur qui tourne pour rien ne fonctionne pas à sa température optimale. Et comme le carburant ne brûle pas complètement, des pièces s'encrassent et s'usent prématurément, l'huile se contamine plus vite et la consommation d'essence augmente. Un règlement existe dans la majorité des grandes villes. Et puisque le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre relié au changement climatique, nous devons limiter le plus possible la marche au ralenti. Arrêtez le véhicule lorsque vous vous immobilisez plus de 10 secondes et que vous n'êtes pas en circulation. Un moteur consomme plus de carburant lorsqu'il est au ralenti que lorsqu'il démarre. Et il ne suffit que de 30 secondes en hiver pour que le moteur soit prêt. Vous n'avez qu'à éviter les accélérations trop rapides durant les premiers kilomètres. Et habillez-vous en hiver. Et surtout, évitez d'utiliser un démarreur à distance. Vous serez moins frileux et moins enclin à vouloir réchauffer l'auto.
Texte tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration, Maude Campo. Attention! S'il vous plaît. Monsieur, attention!
Hé, hey, oh!
Non, mais regarde où tu vas.
Pardon, s'il vous plaît, madame.
Hey, voyons!
Calme-toi.
Attention, c'est urgent, attention!
Merde! Oh, fais attention!
Mais tassez-vous!
Ah, ah!
S'il vous plaît! Bordel, c'est chaud!
Ouch!
Excusez-moi, mademoiselle. Ah, oh, pis merde!
Hé, hey, man, tasse-toi!
Tassez-vous!
Oh, my God. suis encore pogné une hostie de ticket.
Je crois qu'à la base, je voulais faire le bien autour de moi. Cela n'a pas été possible pour deux raisons. Parce qu'on m'en a empêché. Et aussi un peu parce que j'ai abdiqué.
C'est ce qui conclut l'épisode Z de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Solène Marchand, Marie-Claude Journeau, Aurélie Superchico, Jean-Baptiste Gardarin, Annick Daigneault, Annie Schneider, Pierre Charpiose, Martin Junior Pelletier et Guillaume Lambe. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.